Il est 19h, l'heure de se détendre dans Elle.
Equinox FM.
Equinox FM présente Zelle,
la touche féminine de votre radio.
Une émission pour les femmes et pour ceux qui veulent comprendre les femmes. Musique,
chronique,
invité,
cadeau,
Zelle, la vie comme vous la voulez. Zelle, le jeudi de 18 à 20h,
rediffusion le samedi de 18 à 20h.
Pour cette deuxième heure, nous recevons Marie-Pierre Prudhomme. Bonsoir Marie-Pierre.
Bonsoir Ludivine.
Alors,
bonsoir Nathalie, bonsoir Nils.
Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, vous êtes hypnothérapeute?
Oui.
Ou hypnotiseuse? Quel est le terme le plus correct?
Alors, les deux sont corrects, mais moi personnellement, je suis hypnothérapeute.
D'accord. Alors, la première question que je vais vous poser, c'est évidemment, qu'est-ce que l'hypnose?
Alors, l'hypnose, étonnamment peut-être, c'est un état naturel, un état tout à fait naturel qui fait partie de notre fonctionnement. C'est un état qui est entre la veille, le sommeil et peut-être le rêve.
Donc ça veut dire quand on s'endort, on est en hypnose?
Alors, quand on s'endort, on peut, juste avant l'endormissement, passer par une phase de type hypnose. Ça ferait partie de la grande famille. On va parler entre autres d'hypnose de roulage. Ça vous dit quelque chose? Vous avez déjà entendu parler
de
ça? Non. Je ne sais pas si vous faites de temps en temps de longs trajets en voiture.
Exceptionnellement, quand je pars en vacances.
Oui. C'est une toute bonne raison. Donc, quand on fait des très longs trajets en voiture, on peut arriver à destination et parfois avoir l'impression, bah, tiens, je ne me rappelle pas d'être passé par tel ou tel endroit. Nathalie a déjà connu ça.
Oui. On a l'impression que le trajet du retour est beaucoup plus vite passé.
Exactement.
Et on se demande pourquoi.
Voilà. Ouais, voilà. Ouais. Donc il peut y avoir des phénomènes, ça on parlera de distorsion temporelle. Une fois on va faire le trajet et on aura l'impression mais ça a duré 20 minutes et la fois suivante mais ça a duré 1h30. Un effet de distorsion temporelle, ça fait partie des phénomènes hypnotiques. Un autre phénomène, ça va être cette sensation d'avoir oublié. Mais tiens, est-ce qu'il y a toujours des radars là? Grosse panique. est-ce qu'on a rouvert la station essence là-bas? Quand on arrive à destination, alors qu'on a été très très vigilant pendant le parcours, on peut avoir des sensations de ce type-là, de distorsion temporelle ou des sensations d'avoir oublié, un peu zappé une partie du trajet. Alors ça, c'est dû à quoi? En fait, c'est dû à un tas de critères qui sont rassemblés et qui vont amener à ce phénomène hypnotique. Dans la voiture, généralement, on est plutôt immobile. Généralement, enfin, souvent, c'est recommandé
oui,
en tout cas.
C'est un peu difficile de bien bouger dans une voiture.
Mais souvent, on a quand même cette immobilité. Également, on a une fixité au niveau du regard. Donc la vision périphérique est diminuée. Et quand elle est trop, bah, ça peut être dangereux. Mais elle est diminuée, cette vision périphérique. Et puis il y a cette concentration qui est présente et le bruit, hein, la répétition du bruit
sinon, ouais,
va faire qu'on va se mettre dans un certain état de type hypnotique.
D'accord.
Voilà.
Donc ça c'est le fait qu'on vous explique. Donc l'hypnotique de roulage, c'est ça? L'hypnose de roulage.
Hypnose de roulage.
Hypnose de roulage. Alors l'hypnose, à qui s'adresse-t-elle? Est-ce qu'on peut la faire à tout âge? Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il faut être dans un état particulier? Est-ce qu'il faut avoir vécu quelque chose de grave pour faire de l'hypnose?
Très grave.
Parce qu'on peut voir parfois dans les films, ça, les gens qui font à des séances d'hypnose, c'est des gens qui recherchent des souvenirs de leur passé dont ils ne se rappellent pas.
Oui.
Donc c'est peut-être un peu cliché ce que je raconte, mais
carrément,
apportez-nous les réponses.
Voilà. C'est vrai, ce sont des questions intéressantes. Alors, je vais distinguer deux choses. C'est l'hypnose de l'hypnothérapie. Donc l'hypnose, état naturel entre la veille et le sommeil, qui correspond à certaines ondes cérébrales. Ça, c'est l'hypnose. Hein. L'hypnothérapie, qu'est-ce que c'est? C'est l'utilisation de cet état d'hypnose à des fins thérapeutiques. À des fins thérapeutiques. Donc, chacun connaît cet état, ces états d'hypnose. Ils sont inhérents à notre fonctionnement. Maintenant, la question est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je vais pouvoir avoir une réceptivité à la suggestion? Ça, il y a un grand point d'interrogation parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont faire qu'on va être réceptif à la suggestion. Hein, donc, la suggestion ayant une vocation thérapeutique. Il faut se dire que dans cette vocation thérapeutique, ce qui est à voir, c'est qu'on est dans le cadre d'une thérapie. Alors une thérapie, ça veut dire qu'on est en train de changer quelque chose dans son comportement ou dans la vision des choses qu'on a. Donc on utilise des outils de psychothérapie en hypnothérapie. Est-ce que ça répond à la question ?
Oui, mais moi, ce que je voulais savoir, oui, non, ce que je voulais vraiment savoir, c'est ce que tout le monde, les enfants par exemple, peuvent faire de l'hypnose ?
De l'hypnothérapie.
Hypnothérapie. Ouais,
donc les donc enfants, c'est... il suffit d'observer une classe. C'est génial. Un enfant, il est hyper dans la réceptivité. L'institutrice, elle déploie de l'énergie pour captiver leur attention. Et le gamin, il est parti. Son esprit, il est dans la cour.
Il voyage.
Ouais, donc là, il est en état d'hypnose. Les enfants, on travaille très très facilement avec eux en hypnose parce que leur imaginaire, il est hyperactif, ils sont vraiment dans la réceptivité. Un petit bout, si on lui dit une fée, il n'y a rien besoin d'ajouter. La fée, il la voit, elle est grande, elle fait 2 mètres, elle a des cheveux magnifiques, elle a une robe, elle sent bon. Il est dedans, il se met dedans. D'autant que l'enfant, il a vraiment de la chance. Lui, si on lui dit « je vais te raconter une histoire », qu'il ait fait ou pas cette voix, il s'en fout. Que sa chambre soit rangée ou pas, il s'en fout. Il rentre dedans, les préoccupations externes ne sont pas importantes pour lui. Tandis que l'adulte, le mental est beaucoup plus présent, donc il va devoir composer avec. Donc la réponse est oui, l'hypnose, dès qu'on est, on est sujet à ces états d'hypnose, à partir du moment où on commence à se connecter à des états de veille, de sommeil et de rêve, par définition, on passe par cet état d'hypnose. Quant à l'exploitation de l'hypnose, oui, elle est possible très, très, très tôt.
Vous travaillez avec des enfants à partir de quel âge ?
Moi, je prends 4, 5 ans, 6 ans.
4 ans, c'est vraiment très jeune. Ça.
Ouais. On travaillera tout à fait différemment. Il faut savoir que la réceptivité d'un enfant est tout à fait différente de celle d'un adulte. Un enfant bouge beaucoup plus, par exemple. Donc, un hypnothérapeute qui ne serait pas non aguerri et qui n'est pas au courant du comportement d'un enfant pourrait y voir une forme de résistance, une forme de non, moi je veux pas. Mais non, c'est pas ça.
Alors l'enfant, c'est dans sa nature.
C'est dans sa nature. Il a besoin de bouger pour se concentrer. Ouais. Il a vraiment besoin de ça. Et donc, on exploite la façon de bouger de l'enfant. Donc, vraiment, c'est toute la vie qu'on peut utiliser ça.
Voilà, ça va de 4 ans à. C'est pour tout le monde.
C'est pour tout le monde.
D'accord. Ouais. Ok, on fait une petite pause musicale et on se retrouve après.
Cette émission est la vôtre. zel100.1@gmail.com.
Alors, Marie-Pierre, vous le disiez avant la musique, donc l'hypnose, vous faites de l'hypnothérapie. Donc, c'est l'hypnose pour...
Vacation thérapeutique.
Voilà. Oui, oui. Alors, sur votre site, j'ai vu que vous pratiquiez donc, pour les arrêts tabacologiques, pour les régimes et pour les allergies. Donc, expliquez-nous un peu comment ça se passe. Si je vais vous trouver pour arrêter de fumer, une fois que la séance est finie, quoi, si je veux allumer une cigarette.
Cannabis ou tabac ?
Tabac. Donc, si je veux allumer une cigarette, quoi, il y a une voix qui va me dire non, tu peux pas fumer.
Oui, une très méchante voix.
Comment ça se passe ?
Alors, pour prendre l'exemple d'un sevrage tabagique, il se déroule en plusieurs soirées et il allie des techniques comportementales et des séances d'hypnothérapie. Alors, dans les techniques comportementales, qu'est-ce qu'on va apprendre ? C'est à avoir conscience de l'acte de fumer. Hein, parce que quand on est fumeur et un vrai fumeur, on peut être à la fin de sa cigarette et se dire « ça alors, j'ai encore allumé une cigarette, tellement encore piégée ». Donc ici, on va vraiment inviter la personne à prendre conscience de l'acte de fumer. Donc ça, c'est la partie purement comportementale avec des tâches à effectuer à la maison et pour modifier la vie du fumeur pour qu'elle devienne le plus embêtante possible.
Quel genre
de
tâches
poliment. Ça va être par exemple changer de moyen d'allumer sa cigarette, changer l'interstice des doigts, changer tous les paquets de place. Il y aura un enterrement. Il y aura plein de choses qui vraiment, quand on les lit, on se dit ouais, bof. Et puis bon, la liste est très bien faite, vraiment très très bien faite, et fait en sorte que on se déshabitue. Mais pour arriver à ça de façon confortable, parce qu'un arrêt tabac, c'est dur, hein, c'est très très dur.
Ça, oui, je sais.
Ouais, la nicotine, c'est une drogue dure. Hein. C'est reconnu en tant que tel par l'OMS. Donc, c'est quand même...
Pas facile.
Pas facile du tout. Okay. Hein. C'est rare qu'on y arrive de la première fois.
Jamais.
Jamais.
Je confirme.
Voilà. Alors, au niveau de l'hypnose, en fait, on va vraiment désapprendre à fumer, avoir un tas de séances qui comportent des métaphores qui vont faire que on est dans un choix, vraiment un choix d'arrêter, un choix de se libérer du tabac. Mais aussi une prise de conscience de ce qu'il y a là derrière, quoi. Qu'en fait, il n'y a rien, quoi. Mmh. Ouais, y a une grande illusion, il y a une manipulation.
Un cancer?
Ouais, c'est. Voilà. Donc, tout ça est envisagé. Vous évoquez le mot cancer, ça par exemple, ce sont des choses qu'on n'utilise pas en hypnothérapie.
Pardon.
On n'était pas en séance, donc ça va. On va pas utiliser ces mots-là parce que on travaille justement au niveau du pouvoir de la suggestion. Hein, donc imaginez si ouf, je suggère aux personnes qui consultent ce genre de projet,
ça n'ira pas.
Hein, donc on part justement sur des choses hyper positives qui vont stimuler à prendre cette nouvelle direction.
D'accord. Et pour les allergies, alors, combattre les allergies, comment ça fonctionne?
Alors, les allergies, ça fonctionne de différentes façons. Et je pense que Nathalie est intéressée.
Ah oui, parce que moi, je suis sous médicaments pour mes allergies. Donc, comment on fait justement quand on a plus ces tocs? Moi, j'avais les tocs d'avoir tout le temps des paquets de mouchoirs dans mon sac, je ne pouvais pas sortir sans. Ouais. Maintenant, je me suis défaite de cette habitude, mais j'ai les médicaments qui m'aident. Comment est-ce qu'on fait pour... Alors, enlever tout ça.
Oui, alors il y a plusieurs façons de procéder, mais une des façons de travailler en hypnothérapie au niveau des allergies, c'est que en étant en état d'hypnose, on va progressivement inviter la personne à se mettre en contact avec les substances allergènes. Ouais. Et donc, on va faire des suggestions qui vont influencer au niveau physiologique et qui vont faire que progressivement, on va se réhabituer au contact, que ce soit de l'animal ou au contact
du pollen.
Des pollens. Voilà. Ouais. Donc, c'est une habituation progressive. On revient au contact et on travaille ça. C'est quelque chose qui vaut la peine d'être essayé. Hein. C'est important de pouvoir se débarrasser des antihistaminiques.
Et alors, pour les régimes, est-ce que ça fonctionne aussi comme pour le tabac? On va changer le frigo de place ou le paquet de sucre?
Donc la première tâche va être de déménager le frigo, de le faire passer dans la salle de bain. Alors, au niveau alimentaire, ça, c'est une approche qui est tout à fait autre que le tabac. Au niveau de l'alimentaire, ça va être apprendre à se réconcilier avec la nourriture. Ça va être apprendre à changer sa relation avec la nourriture. Qu'est-ce qui fait qu'on prend du poids si j'exclus les causes physiologiques, hein, comme des problèmes de thyroïde, etc. Mais ce qui fait que généralement on prend du poids, c'est que le comportement alimentaire a été modifié. Donc la relation à la nourriture a été modifiée. La nourriture prend une autre dimension. Par exemple, au niveau émotionnel, des sensations de vide vont générer une modification au niveau du comportement alimentaire. C'est un exemple, là, c'est un exemple. Donc dans le travail en hypnothérapie, ce qu'on va faire, c'est vraiment restaurer. Quel beau jeu de mots, hein. Parce que dans le programme,
c'est beau.
Dans le programme, il y a aussi des sorties au resto. Hein.
Joli.
Ah ouais,
c'est intéressant.
Moi, j'aime bien le resto.
Et qui n'aime pas le resto?
Donc il y aura en fait des sorties au resto, il y aura des préparations à s'alimenter de façon beaucoup plus sociale, à pouvoir vraiment se réconcilier avec la nourriture. Donc on parle pas de régime, hein, je suis hyper allergique à ce mot parce que j'ai une petite devinette. Est-ce que vous savez ce qui fait le plus grossir? C'est une étude qui vient du pays où il y a le plus de balance au mètre carré, enfin que dis-je, des états où il y a le plus de balance au mètre carré, le plus de connaissances diététiques, le plus de régimes.
Ce qui fait le plus grossir?
Ouais. Ça vient des États-Unis, si ça peut vous aider.
Les régimes?
Exact.
Bravo!
Je ne dis rien, mais quand je dis, on m'entend.
Et c'est un homme qui a trouvé la réponse.
Il est entouré de femmes. Alors, juste, pourquoi un régime, ça fait grossir? Parce que...
Ouais. C'est pas parce qu'on donne à son, on prive son corps de tout ce qu'il faut,
ouais.
Tous les nutriments dont on a besoin.
Oui. Un régime, c'est une récession. Hein, et récession, ça rime avec rébellion. Donc ça veut dire que quand on se met dans une dynamique de se priver, hein, d'être hyper sous contrôle, l'hyper-contrôle va amener à la perte de contrôle totale. Ici, ce qu'on invite à faire avec l'hypnothérapie, c'est à revenir à s'alimenter comme on respire, c'est-à-dire naturellement, tout à fait naturellement. Si vous allez à la montagne, l'air est pur. Hein,
et ça fait mal aux poumons.
Et ça fait mal aux poumons. Mais si vous êtes à 2000 mètres d'altitude et que vous dites « Waouh, l'air est bon, j'en prends, je garde parce que quand je retourne à Liège, c'est pas ça. » Ben, il va se passer, ça va pas être très très agréable à vivre. Le système respiratoire va être perturbé. De même, si vous vouliez contrôler constamment votre respiration et vous dire, là, je vais devoir parler, alors je prends plein air, je vais devoir marcher, il va me falloir une réserve d'oxygène, ça va perturber une fonction qui se fait tout à fait naturellement. Et là, vous allez vers... voilà, les problèmes arrivent. Ouais. Et avec l'alimentaire, c'est ça. Le régime... C'est ça, hein, c'est un contrôle qui vient de l'extérieur qui fait qu'on finit par perdre toute sensation interne. Et Dieu sait si l'hypnose est utile à ce niveau-là, parce que l'hypnose, c'est vraiment revenir à ses ressources, à revenir à ce qu'on sent, revenir à soi. Hein.
Donc, si je comprends bien, en fait, le principe, c'est manger quand j'ai réellement faim, ni plus ni moins.
Oui.
Mais si j'ai envie de manger de la pizza?
Eh bien... Où se trouve la meilleure la pizzeria de Liège?
C'est pas la question de ce que tu manges, c'est plus quand tu manges.
Ok.
Alors, pas manger tout le temps, mais manger vraiment uniquement pour te nourrir.
C'est éviter de grignoter devant la télévision.
Alors, le grignotage devant la téloche, quoi, ça c'est quelque chose. On est dans manger sans être conscient de ce qu'on fait. Donc ici, au travers de ce réapprentissage, on pourrait le nommer comme ça en hypnose, on va apprendre à être conscient, hein, de ce qu'on mange. Donc on va évidemment proscrire tout ce qui est comportement de manger en lisant ou regarder la TV, etc. Alors, tous les aliments vont être à nouveau réactivés, vont être présents dans l'approche. Et justement, si on a envie d'aller manger une pizza, ce sera d'être très sélectif. Mais où sert-on les meilleures pizzas? Je ne vais pas donner d'adresse, parce que là, je suis en train de faire le tour de Liège. Il y a quand même des endroits sympas.
Ah, moi, j'en connais une qui est très bonne. Je vous donnerai l'adresse hors antenne.
Mais le tout est de revenir vraiment dans une conscience, dans la sélectivité, hein, de dire, la pizza, c'est où le meilleur endroit? C'est quand le meilleur moment? C'est avec qui que je vais la partager? Ou est-ce seul? Et d'être vraiment dans ce plaisir, hein, de se reconnecter à ça, quoi.
Plus juste manger pour manger, mais se dire, c'est bon, vraiment.
C'est bon, je me sens en accord. Voilà. Hein, on va rechercher un accord. Si on est dans une dynamique de régime, on rentre dans une culpabilité. Et quand on est dans une culpabilité, on a mangé un morceau de gâteau aux pommes. Et puis, je pouvais pas, donc paf, je reprends un. Et voilà, donc voilà. Il y a toute une approche. Bon, l'hypnose n'est pas le mot magique au niveau alimentaire. Dans ma pratique personnelle, il y a tout un abord psychothérapeutique qui est très très complet. Je l'ai mis au point et il tient la route, parce que personnellement, je viens de très 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 loin. Et c'est ça qui m'a mené sur la route de l'hypnose. Mais voilà, au niveau alimentaire, effectivement, c'est quelque chose qui fonctionne.
D'accord. Ok. On va. T'avais d'autres questions, Nathalie ou...
Oh, j'en ai plein million, moi, mais.
Ok, eh ben, on fait une petite pause musicale et on reviendra avec toutes ces questions juste après. Il est 19h30 et vous l'attendiez tous. On est parti pour 15 minutes d'hypnose en direct. Alors, je vais me prêter au jeu avec Nathalie. Hein.
Ça dure 15 minutes.
Oui, Marie-Pierre, c'est ce que vous m'avez dit. Vous valez plus ou moins 15 minutes.
Oui, mais vous imaginez avec le coup de la distorsion temporelle. À 22h, on est toujours là.
On a jusqu'à 20h, donc il faudra faire avec. Alors, si vous, à la maison, vous voulez essayer d'en profiter un maximum, eh bien, vous mettre à l'aise, au calme, détendu chez vous, à côté de l'ordinateur ou de la radio, et puis vous laisser bercer par la voix de Marie-Pierre. Alors Marie-Pierre, il faut être comment ? Comment est-ce qu'il faut s'installer ?
Alors, ce qu'il y a de spécifique à une séance d'hypnose, vu de l'extérieur, ça pourrait ressembler à une séance de relaxation. Mm-hmm. Mais il n'en est rien. Alors, je tiens vraiment à vous rassurer, Ludivine, c'est que vous pouvez absolument conserver toutes vos tensions, elles sont absolument les bienvenues.
D'accord. Hein?
Donc restez avec. Alors ça, je trouve très comique.
Du coup, vous allez me dire, vous allez conserver toutes vos capacités, vos facultés.
Moi, j'espère pour vous.
Mais est-ce que je pourrais interagir avec vous si je suis.
Alors on va pas se lancer dans l'hypnose dite conversationnelle, hein, parce que ça existe, hein, mais ici on va pas se lancer là-dedans. Je crois qu'au niveau des auditeurs, ils s'y perdraient un petit peu. Donc ce que je propose en fait, c'est que on se fasse une petite séance d'auto-hypnose. Alors donc il s'agit pas d'hypnose, c'est toujours inviter la personne à se mettre dans un état d'auto-hypnose. Donc tout appartient à la personne. Il s'agit pas d'une séance de relaxation, donc on peut garder vraiment absolument toutes ces tensions. La bonne façon d'être réceptif à ça, c'est d'être simplement assis confortablement avec les voies respiratoires qui sont bien dégagées, les épaules qui sont basses, le dos qui est bien droit, les deux pieds bien à plat au sol. Pour avoir cette sensation quand même d'être bien là.
Excusez-moi, juste une question. Est-ce qu'il faut que je baisse le tapis pour avoir une meilleure concentration ? Le fond sonore.
La petite musique derrière.
Oui, ça pourrait être intéressant, à moins que... Est-ce qu'il y a dans le stock quelque chose de très, très hypnotique ?
On m'a pas prévenu à l'avance.
Alors, par contre, je vais juste te demander de ne pas écouter, puisque tu ne dois pas sous hypnose, que tu puisses continuer à gérer la technique quand même.
Bon, ben, on va essayer.
Alors, simplement, une petite information préalable par rapport à la façon d'écouter une séance d'hypnose. Ne vous attendez à rien, hein, mais vraiment à rien. On est dans une technique qui s'adresse à l'inconscient. Ça veut dire que peu nous importe la façon de réagir du conscient. Le conscient, c'est la partie qui va générer les pensées, qui va faire sentir que le corps est positionné de telle ou telle façon. Donc ça, changez de position au cours de la séance, sentez-vous libre de vraiment de vous sentir à l'aise. C'est simplement écouter ce qui est dit sans rien attendre. Alors, les effets d'une séance d'hypnose, on ne sait pas où, quand, ni comment, on ne sait pas. Hein, le but est d'ouvrir les ressources naturelles. Hein. Alors, c'est écouter ce qui se dit. Et si je peux faire une métaphore, ça pourrait être comme quelqu'un qui regarde la TV et il y a une moto qui passe. Alors, il est pris par ce qui se joue à la TV. Il ne peut pas quitter les acteurs des yeux parce qu'il va se passer plein de trucs s'il les quitte des yeux. Et donc, imaginons, il y a une moto qui passe. Si une moto passe, vous l'entendez, mais vous choisissez de regarder la TV. Hein. Ici, c'est la même chose. La moto, ce sont les pensées. Hein. Donc, il y a des pensées qui passent hein, pendant que je vous raconte cette histoire. C'est simplement constater que ces pensées sont là. J'allais dire les motos.
Aussi, on peut aussi.
Nils va nous faire la moto.
Ce sera peut-être les ambulances hein, ici, puisqu'on est tout près de la citadelle.
Donc, c'est simplement rester concentré sur ce qui se dit et laisser les pensées passer, comme si elles passaient au travers d'une fenêtre et venir dans l'écoute. Voilà. Rien de spécifique à faire, rien de spécifique à dire. Quoi. Simplement être très présent avec tous ses sens.
D'accord.
Ça va ?
Ok, c'est parti.
Voilà. Mais je vous invite à prendre une position confortable.
Moi, ça y est.
Moi aussi.
Non, vas-y, peux pas.
Voilà, je me repère juste au niveau du timing.
On a jusqu'à moins 5.
On a jusqu'à moins 5. Et donc Nils me fera un petit signe quand il restera 3 minutes. Oui, ok, merci. Voilà, donc je prends une position confortable. Je peux laisser les yeux se fermer. Et je vais laisser venir quelques soupirs. J'inspire et j'expire. Très bien. Voilà, de vrais soupirs. Des soupirs qui engagent le corps. Je peux même inspirer, laisser les épaules monter, se contracter, retenir l'air un moment. Je retiens l'air et puis j'expire, je relâche. Très bien. Je vais faire ça encore deux fois. J'inspire, je contracte les épaules, je garde l'air, je sens la sensation de contraction. Et je déguste la sensation de relâchement. Très bien, très très bien. Et si je sens cette envie de rire, de sourire, surtout je laisse venir, j'accueille. On va peut-être laisser le divin rire, laisser venir tout ce qui vient. Le rire étant un signe de détente. Et je peux laisser également et même inviter le bâillement. Maintenant ou à tout moment de la séance. Et progressivement, simplement venir observer ma respiration. Simplement observer cette respiration. Très bien. Et je peux commencer à nommer mentalement les phases respiratoires. Je peux me dire, j'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. Très bien. Simplement déposer les mots mentalement sur chaque phase respiratoire. Très bien. Et je laisse une partie de moi continuer à nommer ces mots, nommer ces phases respiratoires, pendant qu'une autre partie de moi peut capter le mouvement de la poitrine bercé par le rythme de la respiration et sentir la poitrine qui s'abaisse et qui se soulève. Très bien. Je me laisse simplement glisser vers cette observation de la respiration. Et je peux inviter toutes les pensées qui viennent de droite, qui viennent de gauche, qui viennent de l'arrière et de l'avant. Je peux les inviter à venir se déposer sur l'observation de la respiration. Simplement observer cette respiration. Il n'y a rien d'autre à faire. Très bien. Que de laisser faire naturellement. Et je peux me mettre comme observateur de cette respiration, comme si j'étais juste au bord de moi-même à observer cette onde respiratoire. Très bien. Et tous les bruits que je capte à l'extérieur m'aident à rentrer un peu plus profondément dans cette observation. Et je peux peut-être percevoir certains phénomènes intracorporels, comme de petits picotements ou des sensations électriques ou même de lourdeur, dans un pied ou dans l'autre pied, dans une main ou dans l'autre. Et je peux simplement, au gré de mes respirations, laisser davantage de place à ces petites sensations, leur permettre de s'amplifier, d'exister davantage, ou peut-être de se déplacer dans le corps. Très bien. Très très bien. Je laisse filer les pensées, simplement, constater qu'elles sont là et les laisser passer. Comme la brise passe par la fenêtre. Très bien. Et pendant qu'une partie de moi est en train d'observer la respiration, une autre partie de moi peut laisser revenir le souvenir d'un moment que j'ai pu passer sur une plage. Et je peux y voir le corps allongé. Le corps allongé sur une plage très très propre, très très pure. Le corps est allongé, il est en train de baigner dans la chaleur. Une chaleur qui vient du soleil, très présent, juste ce qu'il faut. Une chaleur qui émane de la plage. Une plage très très chaude, juste ce qu'il faut. Et le corps se détend dans la chaleur. Et la tête, elle, est bien au frais, vraiment au frais. Comme si une brise légère venait rafraîchir le front, rafraîchir les tempes. Comme si un tissu soyeux, humide, était déposé délicatement par une main bienfaisante sur le front et sur les tempes. Le corps bien au chaud, la tête bien au frais, et les mains dans le sable, en train d'égrener ce sable, de sentir un grain très rond, puis un grain très très anguleux. Le corps bien au chaud, agréablement au chaud, la tête bien au frais, et la main qui égrène le sable comme le temps. Je suis très très bien. J'écoute le bruit de la mer, j'écoute les vagues vont, les vagues viennent. J'entends les oiseaux, j'entends les enfants sur la plage. Les sons me parviennent de plus en plus loin. Le corps bien au chaud, la tête bien au frais, et les doigts qui égrènent le sable. Un petit garçon est sur la plage. Il a passé des heures et des heures à construire un château, un très très beau château de sable. Il a plusieurs étages, il a des tours, il y a à poser un drapeau. Le château est là. Le petit garçon regarde le château. Il écoute la mer. Les vagues vont, les vagues viennent. Et progressivement, la marée monte. Les vagues arrivent vers le château. Une première vague vient lécher le premier étage du château. Elle repart. Les vagues vont, les vagues viennent. La marée monte. Une vague puissante vient déferler et se fracasser sur le deuxième étage qui n'en reste pas indemne. Les vagues vont, les vagues viennent. Une vague très puissante vient maintenant se fracasser sur la première tour. Les vagues vont, les vagues viennent et bientôt, le château est presque transformé en un tas de sable informe. Le petit garçon regarde ce qui était le château. Les vagues vont, les vagues viennent. Bientôt, elles viennent lisser, lisser complètement. Ce tas de sable, cet ancien château. Les vagues vont, les vagues viennent. Le petit garçon est là, il a repris le drapeau. Il regarde la plage. Il regarde la plage et là où était le château, en regardant le sable, en regardant très profondément dans le sable, lui, il y voit le château. Il est toujours là, il a toujours été présent, mais sous une autre forme. Les vagues vont, les vagues viennent, la marée monte. Une marée qui ne sait même pas ce qu'est un château. La mer, la marée, elles ne savent pas ni ce qu'est un château, ni un petit garçon. Elles ne savent pas qu'elles ont détruit ce château. Les vagues vont, les vagues viennent. La marée ne sait pas ce qu'est le château. Elle a des desseins, des buts bien plus élevés. La marée fait ce qu'elle a à faire. La marée régule l'équilibre marin, l'équilibre terrestre, l'équilibre des terres, de la terre, des planètes, peut-être même du cosmos. Les vagues vont, les vagues viennent. L'intelligence naturelle régule tout ça. Le petit garçon regarde la plage, regarde cet endroit où était le château. Peu à peu, la marée redescend, lentement, progressivement. Une vague ramène un objet sur la plage. Une petite pelle et un petit seau. Un autre petit garçon passe par là. Il les ramasse et s'en va construire un château. Les vagues vont, les vagues viennent. Je peux me laisser porter sur la plage. Le corps bien au chaud, la tête bien au frais et les doigts qui égrènent le sable. Les vagues vont, les vagues viennent, je peux faire confiance, totalement confiance. Je serai étonnée, bien après cette séance, de me sentir bien plus léger, avec une certaine distance, de percevoir ce qui est important, ce qui l'est moins, de relativiser peut-être certaines choses. Et peut-être aussi de pouvoir reconnaître des châteaux sur une plage. Je vais prendre de grandes et profondes respirations pour laisser s'ancrer tous les bénéfices de cette séance dans le riche terreau de mes ressources personnelles. Très bien, très très bien. Progressivement, je vais m'apprêter à revenir vers l'extérieur. Et si mes yeux sont fermés, avant de les ouvrir, je vais déjà voir la pièce dans laquelle je suis. Je la connais. Voir les murs, les décorations. Je m'habitue déjà à revenir vers l'extérieur, à passer bientôt à d'autres activités, à me sentir régénéré, léger. Je laisse revenir de petits mouvements dans les extrémités, dans les mains, dans les pieds. Et progressivement, je laisse les yeux et les sens s'ouvrir. Je reviens vers l'extérieur. Voilà, progressivement, à mon rythme. Je vais peut-être prendre l'antenne pour vous donner quelques indications sur les têtes respectives de Ludivine et Nathalie, qui semble-t-il ont passé un moment plutôt déconnectant. Et j'ai vraiment envie d'entendre comment vous sentez.
C'était assez spécial.
Ah, moi j'étais totalement autre part. Je me suis sentie mais sur cette plage, et j'ai même cru à un moment donné que je tombais de ma chaise. En fait, je me suis sentie glisser vers quelque chose de cocooning, quelque chose de rassurant, et en même temps j'entendais l'histoire qui est super touchante et qui m'a beaucoup émue, et là je me sens mais je serais bien restée. Moi, quand vous avez dit reprenez votre souffle, non, j'avais pas envie, moi j'étais bien là, waouh,
Alors moi, c'était un peu différent. Maintenant, peut-être que mon avis, c'est moi qui ne suis pas assez réceptive. Mais moi, donc j'ai ressenti les engourdissements et dans les bras et dans les jambes et les pieds. Mais à un moment donné, je me suis complètement sentie bloquée, comme si je ne pouvais plus bouger mon corps, je ne savais plus ouvrir les yeux. C'est grave ? C'est normal ?
Il va falloir trouver l'antidote.
Donc tout ça, ça fait partie effectivement des effets, enfin des sensations de type hypnotique. Alors ce qui est étonnant, hein, c'est que ce qu'on ressent n'a rien à voir avec la façon dont la séance agit. Mm-hmm. La façon dont la séance agit, donc ça c'est au niveau de l'inconscient, et par contre l'hypnothérapeute, lui, a des façons, des balises, si je peux dire, pour voir comment la personne réagit. Donc ça va être par exemple observer la coloration de la peau, le rythme respiratoire, observer les mouvements oculaires, mm-hmm. qui vont être eux indicateurs de là où se trouve la personne dans son travail sous hypnose.
Ah ouais. Wow. Ah, je suis contente de l'avoir.
Donc Nathalie, t'es pas déçue du voyage ?
Ah non, mais moi j'y retournerai bien là. Mais c'est vrai que la sensation de chaleur et puis les picotements, bon, aussi, oui. La lourdeur dans les jambes, c'est extraordinaire quoi. Je me suis plus sentie, j'entendais la voix, mais je me suis même dit en moi-même la petite pensée qui arrive là, mais où suis-je ? Je ne me sentais plus du tout dans une radio.
Équinox la panne. Bonjour.
C'est non, ça, moi, c'est... J'avais vraiment l'impression d'être bloquée dans mon corps, ouais. Et de pas pouvoir.
Ouais.
Mais c'est normal.
Oui, c'est assez bien normal quand on porte ça plus loin. Je ne sais pas si vous avez déjà vu en hypnose de spectacle, quand on dépose une personne entre deux chaises. Mm-hmm. Vous savez, on arrive, mm-hmm. vraiment, ouais, ouais, à ce que la personne soit dans un état où elle est complètement rigidifiée. Donc ça, c'est porter ça un petit peu plus loin. Donc Ludwine, on vous montrera les photos, parce que pendant la séance, en fait, on vous a déposé entre deux chaises.
Ah, c'est ça. D'accord. Ça va. Anil, content du spectacle ?
Oui, oui. Bah moi, je m'occupais surtout de la technique et du son. Hein. J'étais bien concentré, je regardais l'heure, donc je faisais attention à ne pas trop tomber dedans, justement.
Ben justement, parlons de son. En parlant de son, voilà, je permets maintenant. Mets-nous-en un petit peu et puis on vous retrouve juste après pour clôturer cette belle séance d'hypnose. L'émission arrive tout doucement à sa fin. Alors un dernier petit mot avec vous, Marie-Pierre, à propos de votre cabinet qui est situé à Esneux.
Oui, exact.
Rue de la Paix, mais c'est uniquement sur rendez-vous.
Ah oui, oui, oui.
Ouais. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où on peut vous joindre ?
Oui, donc c'est le 0478 99 71 57.
D'accord. Et vous avez aussi également un site, c'est hypnose-liège.com,
oui.
Où on retrouve toutes vos coordonnées.
Oui. Et une page Facebook qu'on s'est retrouvée en tapant hypnose-liège.
D'accord.
Où j'invite les auditeurs à s'inscrire pour peut-être être tenus au courant et recevoir aussi des conseils pratiques en thérapie brève.
D'accord. Et j'ai oublié ce que j'allais dire. Vous êtes en train d'écrire des livres.
Oui, j'ai effectivement des livres qui sont en couveuse. Alors j'en ai un qui est vraiment en couveuse parce que je planche dessus et il est pas prêt. Mais la thématique, en fait, c'est un comparatif entre le yoga et l'hypnothérapie. Donc ça, j'ai vraiment encore beaucoup de travail dessus. Par contre, il y a un livre qui est une méthode, en fait, qui va sortir et qui s'appelle Hypnopulse, je m'incie, et qui est le début d'une série d'autres Hypnopulse. Et c'est une méthode donc en 3 semaines avec le CD. Méthode pour une réconciliation et donc avec l'alimentaire et un amincissement. Et ça va sortir. Je suis en train de chercher une maison d'édition.
Bien voilà, le message est passé. Donc si vous êtes éditeur, vous connaissez un éditeur dans votre entourage, ben, n'hésitez pas à nous à envoyer un mail à Marie-Pierre. Donc hypnose-liège.com, c'est son site, vous pouvez la retrouver. On vous remercie beaucoup d'être venu dans l'émission. Ce fut un réel plaisir.
Merci.
Nathalie,
vraiment. Je vous remercie, c'est un moment vraiment un moment d'exception et j'espère que les auditeurs ont pu avoir réponse, ouais. aux questions, ouais. qui se posaient à propos de l'hypnose et qu'ils ont pu profiter de cette séance et j'espère qu'ils peuvent la réécouter peut-être.
Oui, samedi, rediffusion 18, ouais. à 20h sur le 100.1, vous en avez l'habitude.
Un très très grand merci en tout cas.
Merci à vous.
Merci.
Nat, je te remercie beaucoup d'avoir assisté, d'avoir servi de cobaye.
je recommence quand tu veux.
Il n'y a pas de souci. Neil, un tout grand merci.
Pour mon attention.
Exactement, d'avoir géré la technique avec brio comme tous les jeudis.